Sons d'Europe, Catherine Roland.
Le beau temps est arrivé, sorti de sa cachette, mes parents m'ont acheté une nouvelle bicyclette.
Bonjour à tous sur Accent d'Europe. Et oui, ce n'est pas du bruit, même si on fête aujourd'hui la journée internationale contre le bruit. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un fléau qui perturbe de plus en plus notre vie de tous les jours. Trop de bruit à la maison, au travail, à l'école et dans la rue. C'est d'ailleurs la nuisance dont se plaignent le plus les citadins. Le bruit des moteurs, qui va souvent de pair avec la pollution de l'air. En particulier les moteurs de certains deux roues, comme les scooters des livreurs. Alors à Paris, un collectif Ras-le Scoot s'est même constitué pour dénoncer ces nuisances. Mais cela change. Plusieurs enseignes de restauration de la capitale ont décidé de remplacer les pétrolettes par des vélos électriques. Et c'est le reportage de Laurent Berthaud.
Domino's Pizza, bonjour. Benjamin, pour vous servir.
C'est pour commander.
Une enseigne de pizza rapide au cœur de Paris. La cliente qui vient de passer commande doit recevoir sa pizza dans la demi-heure. Sitôt cuite, c'est à vélo électrique qu'elle sera livrée. La pizza ne risque-t-elle pas d'arriver froide ? Eddie Nazem, superviseur du Domino's Pizza de la rue de Châteaudun.
Ça ne va pas forcément moins vite, ça va même plus vite. Alors du coup, on a dû refaire un petit peu notre circuit de livraison en s'adaptant aux pistes cyclables de nos arrondissements. Car quand on est en vélo, il faut le savoir, il y a des pistes cyclables qui nous sont réservées. Et surtout, il y a certaines intersections, nous pouvons, en cédant la priorité, tourner au feu rouge à droite, en toute sécurité. Donc ce qui nous fait gagner du temps, et puis vous avez des pistes cyclables aussi un petit peu partout, à contresens ou pas, qu'on peut utiliser, donc du coup c'est un gain de temps énorme par rapport au scooter qui malheureusement va s'arrêter au feu, n'a pas de piste cyclable, enfin pas piste réservée au scooter, donc non, c'est un gain de temps énorme pour nous de livrer en vélo. On livre entre 15 et 20% de mieux qu'avant.
Merci,
prudence sur la route.
Dans ce quartier pas totalement plat, les livreurs apprécient bien le moteur électrique du vélo qu'ils ont dû apprendre à conduire, comme Benjamin, qui assure désormais 10 à 12 livraisons quotidiennes.
Sans faire attention, on peut faire vite sans pour autant s'en rendre compte, et on peut bousculer une personne ou bien traverser la rue sans pour autant s'en rendre compte. Donc
ça va assez vite finalement.
Ouais, ça va assez vite. Surtout sur les montées, il y a des rues où c'est une petite montée, donc ça nous aide à faire un peu plus de temps.
Donc prudence, anticiper les freinages, mettre le casque, le gilet toujours.
Ouais, c'est obligatoire, c'est pas une option, c'est une obligation dans le magasin de mettre le casque, les gilets.
Pour Benjamin, c'est la première expérience dans le monde de la livraison. Pour conduire ses vélos électriques, pas besoin de brevet de sécurité routière, le BSR, requis pour conduire un deux roues motorisé. Et ça a changé pas mal de choses, explique Edine.
Alors ce que ça a changé en termes d'organisation, c'est qu'on a gagné en polyvalence avec nos équipes, car maintenant on recrute des profils différents qui n'ont pas forcément le BSR, donc on a gagné en souplesse dans nos recrutements. Maintenant tout le monde peut livrer en vélo, et surtout aussi en magasin, nos hôtesses, qui auparavant n'étaient pas titulaires de ce brevet de sécurité routière, peuvent livrer en vélo en toute sécurité.
La profession s'est donc féminisée finalement.
Totalement, oui, bien sûr. On a actuellement trois hôtesses qui livrent dans nos magasins. Ça plaît et aux clients et aux hôtesses qui partent en livraison.
Depuis le début de la conversion, il y a un an et demi, seuls les 26 magasins parisiens de l'enseigne ont adopté le vélo électrique. Mais les 380 franchisés français sont encouragés à faire de même. Bart De Vraise, directeur général de Domino's Pizza France.
Le vélo électrique, c'est une image de marque, parce que vous inscrivez dans une ville où la nuisance première est quand même le bruit. Et deuxième chose aussi, c'est que quand on cherche les emplacements et on arrive avec notre solution de mobilité douce, le voisinage nous accueille différemment. Car quand vous n'avez pas en bas de votre immeuble le bruit qui est généré par la livraison et surtout par les scooters, quelque part on s'inscrit encore une fois dans une meilleure cohabitation avec les voisins, parce que le bruit y part.
Autre changement important, la conduite des livreurs s'est-elle aussi apaisée au guidon de ces véhicules électriques ? Les accidents sont beaucoup moins nombreux qu'auparavant.
Chacun pour soi dans son ghetto.
Voilà, on revient avec un peu de bruit. Bonjour Evmino.
Bonjour Catherine.
Alors c'est une nouvelle qui passerait peut-être inaperçue dans l'actualité européenne et pourtant elle pourrait bien annoncer une profonde modification sociétale sur le continent. Selon plusieurs études récentes, le travail des seniors dans la zone euro a fortement augmenté ces dernières années et ce n'est pas sans conséquence pour l'ensemble des travailleurs, voire pour l'économie tout entière.
Oui, et en même temps on pouvait s'en douter. De nombreux pays ont adopté depuis le début de la crise financière de 2008 des mesures gouvernementales pour reculer l'âge de départ à la retraite. On est donc plus nombreux à travailler plus longtemps en Europe. L'étude menée par la Banque de France à partir des statistiques européennes révèle que le taux d'activité des 50-74 ans est passé en un peu moins de 10 ans de 41 à 49%, soit quasiment un point d'augmentation chaque année. Et ce phénomène touche autant les quinquas donc que les sexagénaires, voire même Catherine, les septuagénaires.
Alors, il faut noter quand même de grandes disparités selon les pays, Eve.
Oui, selon les auteurs de l'étude, les deux pays étudiés les plus concernés sont l'Allemagne et l'Italie, même si la France observe une tendance similaire dans une moindre mesure. En Allemagne, par exemple, un tiers des plus de 60 ans travaillent ou cherchent un travail, un sur quatre en Italie.
Alors cette réalité recouvre aussi des situations bien différentes.
Oui, car au sein de cette nouvelle population d'actifs, on retrouve plusieurs profils de travailleurs seniors bien différents. D'abord ceux dont la durée de temps de travail a donc été allongée. Ensuite ceux qui cherchent du travail, mais aussi ceux qui sont déjà à la retraite et qui ne parviennent pas à vivre correctement. Ils complètent donc leur pension avec des petits boulots mal rémunérés, souvent à temps partiel. Ce sont ces derniers qui seraient particulièrement concernés d'après les deux économistes auteurs de l'étude. On sait par exemple qu'en Allemagne, 11% des retraités âgés de 65 à 74 ans, soit près de 1 million de personnes tout de même, sont aujourd'hui obligés de travailler. Un chiffre qui a là aussi doublé en 10 ans selon l'office statistique allemand d'Estasis.
Et l'Europe a déjà un champion en la matière et c'est la Finlande.
La Finlande, c'est le pays d'Europe où l'on compte le plus de papis et de mamies boomers, comme on dit. Peut-être parce que dans ce pays du nord de l'Europe, le phénomène a été anticipé dès les années 90. De nombreux programmes ont été développés pour maintenir la population vieillissante dans l'emploi. Résultat, 25 ans plus tard, 20% des employés ont plus de 55 ans et le modèle est pris comme exemple dans tous les pays d'Europe.
En revanche, Eve, c'est l'autre observation de l'étude. Cette augmentation de main-d'œuvre a des conséquences sur les salaires de ces derniers.
Oui, le salaire horaire des personnes âgées de plus de 60 ans dans la zone euro aurait un peu diminué d'un peu moins de 1% entre 2010 et 2014, en 4 ans donc, selon Eurostat, toujours l'agence statistique européenne.
Plus étonnant, Eve, cette situation a aussi des conséquences sur les salaires de tous les Européens, toutes classes d'âge confondues.
Oui, c'est étonnant en effet, et en même temps c'est une des conclusions de ces travaux. Lorsque dans un pays l'offre de travail, pourrait-on dire, des personnes en fin de carrière augmente, cela ralentit les hausses de salaire pour toute la population. Et c'est particulièrement vrai pour les pays qui connaissent une situation proche du plein emploi, comme par exemple en Europe, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
L'Europe, donc, qui a des seniors plus actifs, mais pas forcément plus heureux.
Et non, en effet, mais là encore, ça dépend beaucoup des pays. J'ai par exemple retrouvé un sondage sur le bonheur des seniors au travail, réalisé en 2015 par Ipsos pour Edenred. C'est une entreprise qui a notamment inventé le ticket restaurant, une entreprise française, où l'on apprend cette fois-ci que les seniors français sont parmi les plus malheureux d'Europe. 40% d'entre eux s'estimant souvent heureux au travail, contre 71% par exemple en Hollande, ou même 54% en Suède. Ce qui pêche, côté français, selon les principaux intéressés, trop peu de formation continue et aucun transfert de compétences vers les générations futures, les juniors, autrement dit, ni entretien, ni valorisation de leur carrière. Exactement ce qui est loué de l'autre côté par leurs voisins hollandais notamment.
Merci Evmino.
À la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine. Alors de quoi redonner un peu de vigueur à nos travailleurs, à nos anciens, c'est le printemps, le temps de prendre soin de son corps après l'hiver. Et pourquoi ne pas purger son organisme grâce à un remède à la mode en ce moment avec la sève de bouleau, un liquide précieux que l'on récolte en ce moment en Europe, mais tout particulièrement en Lettonie, championne en la matière. Marielle Vituro.
Existe-t-il un signe infaillible de l'arrivée du printemps en Lettonie ? Oui. Et ce sont les grandes bouteilles en plastique remplies d'un liquide laiteux sur les étals des marchés. À l'intérieur, de la sève de bouleau récoltée dans les forêts lettonnes. Elle recouvre plus de 20% du territoire et le bouleau, cet arbre au tronc blanc, est l'une des espèces les plus représentées après les conifères. Au même titre que la cueillette des champignons, récolter la sève de bouleau est donc l'une des occupations favorites des Baltes au mois d'avril. La loi autorise d'ailleurs les Lettons à faire un unique trou dans chaque arbre et ce, même dans les forêts appartenant à l'État. Face à cet engouement, la télévision publique multiplie les reportages pour enseigner comment recueillir la sève dans les règles de l'art. Le secret d'une collecte réussie réside donc dans le placement du petit tuyau qui permettra à la sève de s'écouler. Il faut percer le petit trou très lentement, il ne doit pas excéder 5 cm pour que l'arbre ne meure pas. Le reboucher par la suite est une nécessité. Pour les débutants, les magasins proposent même des kits pour collecter la sève. Mélange de sucre, de vitamines et de minéraux, la sève de bouleau a des propriétés drainantes et dépuratives. En boire jusqu'à 5 verres par jour permet de nettoyer l'organisme en profondeur. Même si les laitons connaissent depuis très longtemps les vertus détoxifiantes de cette boisson, ils la redécouvrent également et l'adaptent au goût moderne. Les producteurs locaux la font fermenter, légèrement gazeuse, elle est mélangée à du citron, à de la menthe ou du cassis pour lui enlever sa légère amertume et la rendre désaltérante. Produit phare de la nouvelle cuisine lettonne, la sève de bouleau s'exporte jusqu'en Chine.
C'est une petite bande de terre non revendiquée sur la rive ouest du Danube, coincée entre la Serbie et la Croatie. Liberland pourrait bien se transformer en une micronation sur le modèle d'Andorre, Monaco ou encore Singapour. Cette république libre, fondée par un Danois, a vu le jour il y a 3 ans. Elle prône une société libre, donc le libre-échange aussi, et une vision très minimaliste de l'État. Philippe Bertinchon a pu s'y rendre.
Le 15 avril dernier, à l'occasion du 3e anniversaire de Liberland, une flottille de 9 bateaux tente d'accoster sur l'île. Plutôt un îlot, une étendue boisée qui ne mesure pas plus de 7 km². Gauthier Lamotte a 31 ans et tourne un film de promotion sur l'événement. C'est aussi la première fois que cet adepte d'une société libre voit Liberland.
Je ressens un mélange d'excitation, un mélange de joie. Pourtant c'est absurde, je ne crois pas particulièrement à des idoles style un drapeau ou un concept de nation, mais c'est peut-être le fait d'avoir à dépenser beaucoup d'énergie ou d'être pour le symbole que ça porte.
Mais l'armada doit rebrousser chemin. Une escadrille de la police croate barre l'accès à l'île. La Croatie, membre de l'Union européenne et toujours candidate à l'espace Schengen, ne badine pas avec ses frontières, qui comptent parmi les plus protégées de la forteresse Europe.
Le gouvernement croate estime qu'il doit empêcher le Liberland de s'installer. Pour l'instant, nous sommes encore en négociation pour essayer d'obtenir une résolution pacifique du conflit. La Croatie dit que ce n'est pas le territoire croate. D'ailleurs, ça n'apparaît pas sur le cadastre de la Croatie. Et ça n'apparaît pas non plus sur le cadastre de la Serbie.
Sur le plan juridique, le territoire est sous contrôle croate tout en appartenant à la Serbie selon la revendication croate. Serbe selon la Croatie, croate selon la Serbie. Une histoire de divergence sur le tracé du Danube. Depuis l'éclatement de la Yougoslavie, il y a plus de 25 ans, quand les frontières administratives sont devenues étatiques, Belgrade et Zagreb n'ont pas tranché le litige. En attendant, Vit Jelička, un citoyen tchèque, fondateur et président autoproclamé de ce micro-État, fait un discours, décerne des médailles et distribue des passeports. Depuis sa naissance, Liberland a reçu 500 000 de demandes de citoyenneté, dont 100 000 du Moyen-Orient, 18 000 des États-Unis et 5 500 du Royaume-Uni. Il existe cependant des restrictions. Les réfugiés, faute de territoire pour les accueillir, sont exclus. Quant aux communistes, néo-nazis et autres extrémistes, ils ne sont pas les bienvenus. Sinon, il suffit de débourser l'équivalent de 5 000 $ ou bien de militer pour la cause. Actuellement, quelques 150 000 personnes sont éligibles.
Ce lopin de terre a été dans les limbes depuis la dissolution de la Yougoslavie. Liberland a, de fait, été fondé sur les tout derniers restes de l'existence de la Yougoslavie. Et c'est là-dessus que nous voulons bâtir, mais bâtir quelque chose de neuf.
Le président Jelička se définit comme libertarien. Liberland est un micro-État où la constitution est inspirée de celle des États-Unis, de la Suisse et de l'Estonie, où les donations remplacent l'impôt, où les crypto-monnaies ont cours, où l'administration et le gouvernement sont réduits au strict minimum. Ces modèles, Monaco, Hong Kong ou Singapour. Or, selon la Convention de Montevideo de 1933 sur les droits et les devoirs d'un État, un État souverain doit être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les autres États. Pour l'heure, Malgré son organisation, Liberland est donc confiné à une nation virtuelle.
Right now, we're growing to a degree when we will be able to take care of the security of this territory.
On est en train d'arriver à un degré où l'on sera capable de se charger de la sécurité de ce territoire. Et c'est une grande étape. On doit être capable de s'occuper de nos frontières. J'assure nos finances afin que notre organisation devienne un membre responsable de la communauté internationale. Mais vous pouvez voir que nous sommes déjà une sorte de nation organisée et que des milliers de personnes suivent.
You know, there are thousands of people more to follow.
L'île se trouve à 14 km en amont d'Apatin, une ville frontière au carrefour de la Serbie, la Croatie et la Hongrie, dont le maire, Milan Srbić, accueille les Liberlandiens à bras ouverts.
Voyons ça comme notre avantage, être basé sur le Danube et construire un port. Nous avons là un chantier naval et puis une marina. Dans ce petit espace, nous avons tout ce qu'il faut pour une voie fluviale. C'est pourquoi je suis là, pour raconter cette histoire aux gens qui sont ici, qui ont de l'argent et qui doivent encore décider où investir.
Il faut dire qu'à deux pas de là se trouve la zone de libre-échange d'Apatin, un pays de cocagne pour les investisseurs. Liberland a déjà installé son pôle opérationnel en Serbie, le Liberland Settlement Association. La veille, lors d'un grand raout, l'organisation a lancé un appel de fonds. Les crypto-monnaies, c'est bien, mais pour l'heure, un sou reste un sou.
La ville de Berlin vient de créer une bourse pour soutenir ses auteurs de bandes dessinées. Michael Ross est le premier lauréat de cette nouvelle subvention du 9e art. En tout, 16 000 euros lui seront versés cette année, ce qui devrait l'aider à mieux faire reconnaître son travail en Allemagne. Et Déborah Berlioz l'a rencontré dans son atelier.
Michael Ross a toujours dessiné. Sa passion des bandes dessinées, il l'a hérité de son grand frère. Tous les deux, ils passent des heures à lire les aventures de Tintin et à inventer leur propre histoire.
J'ai toujours voulu être dessinateur de bandes dessinées, mais je pensais que ce n'était pas possible, car cela ne faisait pas vraiment partie de la culture allemande.
Michael s'oriente donc d'abord vers le stylisme. Il commence par une formation de couturier à l'Opéra de Munich avant d'intégrer une école d'art à Berlin. Mais sa passion ne le lâche pas et il continue d'écrire ses histoires sur son temps libre. Puis les choses deviennent sérieuses quand Michael part en Erasmus. Il passe un an dans la division bande dessinée de l'Institut Saint-Luc à Bruxelles où il rencontre le scénariste belge Nicolas Wouters. Ensemble, ils écrivent « Les pieds dans le béton », l'histoire de deux amis d'enfance sur fond de scène punk berlinoise. Nicolas à la plume, Michael au dessin. Le trait est nerveux et les couleurs aussi entre le rouge sang et le bleu sombre, parfait pour vous plonger dans l'ambiance. 3 ans plus tard, il troque l'univers urbain pour une forêt mystérieuse dans Totem. Les deux ouvrages sont d'abord parus en France avant d'être traduits dans la langue de Goethe. Malgré tout, le quotidien reste précaire et la bourse attribuée par Berlin est un vrai soulagement pour Michael.
J'ai enfin la possibilité de me concentrer complètement sur mon travail. Pour la première fois, je ne réfléchis pas en permanence à la manière de me financer, parce que c'était mon principal problème avant.
Le projet qui lui a permis de gagner cette subvention ne manque pas d'originalité. Il y dépeint le quotidien des habitants d'un centre pour handicapés mentaux en Basse-Saxe. Cette fois, il est dessinateur et scénariste. L'ouvrage doit sortir cette année pour célébrer les 150 ans de l'établissement. L'idée est venue du directeur du centre, un grand fan de bande dessinée. L'année prochaine, d'autres auteurs pourront profiter de la manne publique berlinoise. Et Michael espère que d'autres villes suivront bientôt l'exemple de la capitale.
À la réalisation, il y avait Richard Rifono. Vous pouvez nous suivre évidemment sur rfi.fr ou sur la page Facebook d'Accent Europe.